Odette, pour le courage de partager ton voyage au Congo et voir ton petit-fils passer dans les eaux. Son cœur était lavé. Mais l'eau n'était pas si pire que ça, finalement. Moi, je pensais que ça soit de la boîte épaisse, là, mais finalement... Merci, Claudette. Je suis content que tu aies pu aller au Congo, puis voir ta famille, puis voir l'œuvre de Dieu là-bas. Certainement un beau cadeau, un beau cadeau. Et nous, on va tourner dans les Écritures encore ce soir. On est dans Éphésiens et on va continuer. En réalité, on arrive à la deuxième moitié d'Éphésiens ce soir. Paul avait commencé en réalité, dans toutes ses lettres, c'est souvent un peu cette forme-là. Il commence avec des informations, puis il termine avec des exhortations, de l'encouragement. Alors, il a commencé Éphésiens, « Béni soit le Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Vous en souvenez-vous de certaines bénédictions qu'il avait nommées au chapitre 1? Il te fait asseoir dans les lieux célestes. Élu. Élection. Rédemption. Pardon des péchés. C'est ça, rémission, pardon des péchés. Prédestination, prédestiné à être à l'image. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, l'infinie grandeur de sa sagesse. On en a de l'investissement. Et dans le chapitre 2, il a mentionné que comment il nous avait donné la vie spirituelle. Nous qui étions morts dans nos offenses, dans nos transgressions, il nous a donné la vie. On est devenus des enfants de Dieu. Puis là, non seulement de façon individuelle, mais de façon collective, il nous a fait appartenir à la famille de Dieu. Et là, il s'est emballé avec la notion de la famille de Dieu, puisque c'est le cœur de l'Église, c'est le cœur de l'Épître aux Éphésiens, que la famille de Dieu, ça regroupe-tu des Congolais là-dedans? Oui, ça, des Juifs, des non-Juifs. Il a fait de tous les croyants un homme nouveau, une seule grande famille, l'Église, et... comme on voyait ce matin dans l'église, il pouvait finalement prier que l'on puisse jouir de tout ce potentiel-là de la Trinité, du Père qui nous a donné la vie, de l'Esprit qui peut nous fortifier puissamment dans l'être intérieur, de Christ qui nous donne à manifester puis à expérimenter l'amour parce qu'il habite dans nos cœurs. Et il avait terminé cette section-là par une doxologie. Toutes ces informations, tout ce potentiel qui est en nous, Dieu n'a pas juste l'espérance que ça l'arrive, mais il a la promesse. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou concevoir. Et il pouvait dire à lui soit la gloire dans l'Église puis dans toutes les générations. Et là, il va commencer chapitre 4. À cause de ça, je vous exhorte donc. Et là, on va partir sur des bénédictions à des exhortations. Notre identité en Christ doit déterminer maintenant notre conduite chrétienne. C'est ça. Les bénédictions qu'on a reçues de la part de Dieu, ils forment la base maintenant de notre devoir. Est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu pour aller au ciel ou parce qu'on va au ciel? Alors, mais est-ce que ça veut dire qu'on a un devoir en tant que chrétien? Est-ce que c'est un devoir pour gagner le ciel? Ou un devoir de gratitude parce qu'on a le ciel? Je vous exhorte donc, à cause de tout ce que l'on a reçu, maintenant de manifester la gratitude, de vivre maintenant pleinement en conformité à ce que nous sommes devenus en Christ, à avoir tout pleinement en Christ, à vivre ça. Dans la première section, il y a j'appelle ça des indicatifs, des verbes à l'indicatif qui nous présentent la réalité. Et là, à partir du chapitre 4, on va avoir un paquet de verbes à l'impératif. Il faut juste se rappeler maintenant, ces impératifs-là, c'est pas le faire par mes propres efforts parce que j'ai envie d'aller au ciel, parce qu'on vient de voir que on devrait être puissamment fortifié par l'Esprit. On a vu ça ce matin. que Christ habite dans nos cœurs, puis qu'on expérimente son amour. Puis à cause de ça, c'est là qu'on est en train de marcher. Si les trois premiers chapitres nous ont parlé de notre position en Christ, les trois chapitres suivants vont nous parler de notre conduite maintenant en Christ. Alors, Paul va nous appeler maintenant à marcher. Il va y avoir plusieurs fois qu'il va employer ce mot-là, « marcher ». Ça veut dire quoi, ce « marcher » Mettre en action, que c'est juste la notion de marcher avec nos pieds. Vivre, marcher a l'affaire avec vivre, avec la conduite. Ce serait la même chose. En d'autres moments donnés, le mot péripatéo, le mot marcher en grec, va être traduit par conduisez-vous. Même chose. Marcher, se conduire. Et à travers de 4 à 6, alors on aura différentes manières de marcher. Ce soir, il va nous dire marcher de manière digne, marcher dignement. Puis, selon l'appel qu'on a reçu, puis je ne sais pas où est-ce qu'on va se rendre, mais on a 3 appels dans les 16 premiers versets du chapitre 4 à marcher dignement. Après ça, il va nous appeler à marcher dans la sainteté. Après ça, il va nous appeler à marcher dans la lumière. Après ça, il va nous appeler à marcher dans l'amour. Après ça, il va nous appeler à marcher dans la soumission. Ça va être les prochains messages, en réalité, de marcher maintenant, de nous conduire. Et si on commence ce soir avec les 16 premiers versets, ça va nous appeler de marcher dignement comme chrétien, de marcher de se conduire en gardant la perspective de l'unité. Ça va être ça, marcher dignement. L'unité dans la diversité. Pas l'unité dans le sens où on marche tout par nous autres mêmes, mais on forme un seul corps, puis on a besoin de marcher dignement. Ça va être capable de marcher ensemble. Je pense à sur la ferme, quand j'étais très, très jeune, mon père avait des chevaux, puis il y avait des attelages de 2 chevaux. Et il fallait s'assurer que ce n'était pas 2 chevaux qui tirent chacun comme ils veulent dans toutes les directions, mais ils apprenaient à faire un team, qu'ils appelaient. Là. Ça fallait que ça marche en team. Là. Fallait qu'ils travaillent ensemble. Ils étaient un quand ils apprenaient à travailler ensemble. Dans l'église, on a plus que des chevaux, mais on est appelé à être solidifiés ensemble puis marcher dans l'harmonie, marcher dans l'unité. Alors, chaque croyant, alors, il est nécessaire au corps, puis chaque croyant est un bénéficiaire du corps. Je ne sais pas si on se voit comme ça souvent, que chaque croyant dans l'église locale, dans un sens, il a besoin de l'autre. Il n'a pas tous les dons, puis il a vraiment besoin de l'autre pour pouvoir honorer Dieu. Et puis, je ne sais pas si on réalise que chaque croyant dans l'Église, il est nécessaire pour les autres. Parce que d'après Dieu, les autres n'arriveront pas à la maturité à moins que chacun des croyants investisse qu'est-ce que Dieu a placé en eux. 3 appels à marcher dignement dans les 16 premiers versets, puis on va demander la grâce de Dieu d'abord à avancer dans le texte. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour toutes les bénédictions spirituelles que tu as déversées sur nous de la part du ciel. Merci pour Jésus. Merci pour l'Esprit en nous. Merci pour l'Église. Et Seigneur, on veut te prier qu'à travers l'étude de ces textes maintenant dans Éphésiens, tu nous aides à comprendre tes attentes à notre égard. Que nous puissions vivre avec gratitude. Seigneur, qu'on puisse marcher selon l'appel, selon la vocation que tu nous as donnée. Et Seigneur Dieu, que tu puisses être heureux de voir ton peuple qui marche dans l'unité ce soir, qui marche vers la maturité. Alors Seigneur, dirige-nous, encourage-nous dans ces simples paroles ce soir de tes Écritures. Et Seigneur Dieu, donne-nous de par la suite de pouvoir marcher digne de l'appel que tu nous as lancé. Et on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Je pense que plutôt que de lire les 16 premiers versets, on va lire 6 premiers versets d'abord, puis on ira section par section. Mais on a 3 appels. Chapitre 4, on va lire les 6 premiers versets. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Y a-t-il un mot qui revient souvent là-dedans? Tous, oui. Puis un. Un, puis tous. Il y a deux mots qui reviennent systématiquement. Dieu, oui, un seul. La notion de un, puis la notion de tous. Les deux sont là. Dieu nous appelle premièrement à maintenir l'unité du corps. Il nous dit de marcher, comme on a vu au verset 1, comme j'ai introduit, de marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Et il nous dit maintenant verset 3, de vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. L'unité 1, l'unité de l'esprit. Est-ce qu'on est à travailler pour créer cette unité-là? Est-ce qu'on est tous des gens différents? Et est-ce qu'on est tous animés du même esprit? Est-ce qu'il y a déjà une unité qui est présente du fait qu'on est chrétien? Le Saint-Esprit qui habite en moi, il ressemble-tu au Saint-Esprit qui habite dans Jacinthe? Puis dans Lisette? Absolument. C'est le même esprit. Il y a un seul esprit. Alors, il y a déjà quelque chose qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? L'Esprit de Dieu. Évidemment, on a tous connu l'amour de Jésus. On a tous connu le salut, la vie éternelle. En tout cas, moi, je l'ai connu. Je sais pas si c'est. J'espère que c'est le cas pour toutes les gens. On a déjà une unité. Est-ce qu'on doit travailler dans l'Église à créer l'unité? Il faut déjà réaliser qu'il y en a déjà une unité parmi nous. Dieu nous appelle à vous efforcer de conserver l'unité. Qu'est-ce que l'on fait dans l'Église souvent? C'est qu'on la brise, l'unité. Mais elle est déjà là, parce que l'Esprit nous l'a donnée. L'unité est déjà présente. Tous ont reçu l'Esprit. On a tous la même base à conserver. Alors, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, c'est vrai, on est déjà comme ça. On a déjà le même Père. On fait déjà partie de la même famille. Alors, on est appelé maintenant à bâtir. On ne considère pas les uns les autres comme des étrangers, mais des gens de la maison de Dieu, des gens de la même famille. Maintenant, est-ce que ça va se faire tout seul, ça, conserver l'unité de l'esprit? D'après vous, ça se fait tout seul? Verset 3, il nous dit que ça prend de la force, ça prend de l'énergie, ça prend du cœur. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ça demande l'effort. La vie collective de l'Église, elle exige que chacun de nous, on cherche le bien commun avant nos intérêts personnels. Il faut s'efforcer, ça ne viendra pas tout seul. Comment est-ce qu'on va s'efforcer à garder l'unité de l'esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Où est-ce qu'on doit travailler pour conserver l'unité de l'esprit? Ouais, le lien de la paix. Est-ce que ces efforts-là sont des choses extérieures, visibles, ou intérieures et invisibles? Regardez le texte suivant. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et là, il nous dit comment? En tout. Et pouvez-vous les nommer? Il parle des valeurs morales. Qu'est-ce qui va nous unir? Comment on va travailler pour devenir de plus en plus, de conserver l'unité de l'esprit? C'est avec des valeurs communes, des valeurs morales. Il y en a 6. J'aurais aimé qu'il y en ait 7, ça aurait été un beau chiffre parfait. Donnez-les-moi les six valeurs fondamentales qui vont nous aider à conserver l'unité de l'esprit. L'humilité, douceur, patience, le soutien mutuel, l'amour, puis la paix. Ça fait bien 6, ça. C'est facile, tout ça, hein? c'est des valeurs qu'on développe tout seul, ça, dans notre petit coin chez nous. Moi, j'ai toujours doux avec moi-même. C'est pas le problème. C'est quand les gens me pilent ses pieds qu'on dirait que la douceur disparaît tranquillement, je sais pas, peut-être rapidement aussi. Mais l'humilité, hein, c'est quelque chose qui est naturel dans tous les hommes en particulier. C'est quoi l'humilité? Hein? Avouer ses torts, ouais, c'est ça. Pas se placer sur un piédestal. Avoir une juste évaluation de soi-même. Hein? Être à l'écoute de l'autre. Considérer les autres. Alors, l'humilité, c'est pas toujours d'embarquer par-dessus, mais c'est d'avoir une juste perspective de moi et de l'autre. Parce que l'humilité, c'est comme l'orgueil, hein? Ça se bâtit pas tout seul, c'est toujours en rapport avec les autres. Si t'es tout seul, t'as pas personne à te comparer, c'est dur d'avoir de l'orgueil, hein? Si t'es deux, ben là, tu peux être orgueilleux, tu peux en avoir de l'humilité, c'est la même chose, ça prend un autre, et c'est le désir de considérer l'autre. L'orgueil, c'est le désir de considérer soi-même. Alors, l'humilité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Douceur. Ça se fait tout seul, ça? On a besoin des autres encore. S'efforcer de conserver l'unité de l'esprit, j'ai besoin de développer la douceur. Comment ça se manifeste, la douceur? Oui, Céline. Probablement. OK, la douceur, OK. je vais dire à la fin, ça ressemble à Jésus. Tout ça. Et Jésus a dit, je suis humble et doux de cœur. Et heureux ceux qui sont, dans le sermon sur la montagne, ceux qui sont dociles, j'ai dit dociles, mais le mot ça veut dire dociles. Heureux, ça dit-tu les doux? Les débonnaires, doux, débonnaires, ça va ensemble. Et le débonnaire, c'est celui qui se laisse facilement diriger. On dit que le cheval est débonnaire quand il se laisse conduire. Alors, la douceur, comment tu le traduisais encore? Comment? Qui se laisse, c'est ça. La douceur. Ouf! C'est des... la patience. La patience. Seigneur, donne-moi la patience, puis donne-moi la suite. La patience. Il me semble que j'ai besoin du chapitre 3 soudainement. Être puissamment fortifié dans votre être intérieur afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Évidemment, je ne peux pas faire ça par moi-même. J'ai besoin d'être fortifié par l'Esprit. Patience, soutien mutuel. Pas se taper dessus, mais être édifié, se soutenir mutuellement. Et ça, dans un contexte de l'amour, il mentionnait, supportant les uns les autres avec amour. Le soutien mutuel par amour. Et c'est quoi l'amour encore? L'amour agapé, comment on l'a traduit? Comment on le comprend? C'est quoi cet amour-là? Hein? Comment on définit l'amour, le mot amour? Ça veut dire quoi, l'amour? C'est un sentiment de chaleur profonde et d'acceptation. C'est l'amour que Dieu manifeste. On est appelé à agapé aussi. On est appelé à l'amour agapé parce que c'est l'amour que Dieu déverse dans notre cœur. La distribuer, ouais, ça s'approche. L'amour agapé est un amour altruiste pour les autres. L'amour qui considère l'autre. Alors, vous soutenant les uns les autres par amour, la notion de chercher l'intérêt, la notion de l'amour sacrificiel, l'amour inconditionnel, ça, cette notion d'amour que l'on trouve, que Dieu désire que les chrétiens manifestent.